On passe au-dessus du tombant. On arrive à la position 065. Lipla, vous êtes en ligne?
5 sur 5, ligne CO3 soit haut et fort.
CO2, mon amour.
On commence la descente. Les plongeurs, comment ça va?
Tout le monde va bien pour l'instant.
Accrochez-vous, ce n'est que la descente, les enfants.
Denis Chessot.
Et on descend jusqu'à quelle profondeur?
C'est d'un puits sans fond, mon petit. 4000 mètres de descente.
Sur France Inter.
Ah oui, ça sent véritablement les profondeurs. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission de Nature, CO2 de mon amour, la nature qui chuchote à vos oreilles. Avec des embruns à la clé, vous l'avez compris, nous allons aller au bord du gouffre, je dis bien le gouffre, on va découvrir ce canyon marin. À la technique, nous travaillons avec Jérémy Guillon et puis nous avons préparé l'émission avec Camille Blanès et Marion Philippe. Et c'est Jérôme Boulet qui la réalise.
Je ne sais pas, il y a un mythe qui s'est créé de Poulidor, l'éternel deuxième.
Fils de métayer de la Creuse, né en 1936, année du front Poupoulaire, Poulidor, merveilleux nom qui résonne dans toutes les oreilles, même celles qui ne s'intéressent qu'aux compétitions de curling. Raymond, c'était bien sûr une certaine idée de la France rurale. Un rude qui d'abord mania la fourche, puis enfourcha le guidon. La méritocratie au bout de la chaîne. 189 courses gagnées, bien plus que de places de second. C'est Émile Besson, un journaliste à l'Humanité qui le surnomma Poupou. Alors moi, j'ai eu la chance de le côtoyer quand j'ai animé 5 ans sur France 3 l'émission d'Agnès Vincent autour du Tour, et aussi grâce au berceau de ma famille, parce que Chessou est une petite commune de la Haute-Vienne située à 17 km de Saint-Léonard-de-Noblat, et Raymond était chez lui sur ses routes comme un faillard, comme un châtaignier dans le Limousin, et il n'y a pas une départementale qui ne fût honorée de ses gouttes de sueur. Autre chance, faire une fois une courte sortie de 50 km avec cette légende. Il avait pas loin de 70 ans et quand même de sacrés restes. Alors est-ce lié à la soupe de châtaigne épaissie au pain noir qui le nourrissait quand il était petit? Il me racontait son bien-être à l'entraînement, son bien-être de se fondre dans cette nature à vélo. Il vivait les saisons, il comptait les écureuils, les lapins, les buses, les milans noirs vus au cours d'une sortie. Bon, les vaches non, hein, parce que dans le coin, il y en a quand même partout. En compétition, il était plus difficile pour lui de compter les marmottes dans le galibier, qui sont toujours postées dès le 5e kilomètre avant le sommet. Bon, mais vous me direz, lors d'un passage du Tour, la marmotte ne se fait pas très fieraude, hein. Elle ramasse une casquette cochonou comme tout le monde et puis elle se planque et regarde les coureurs à la télé depuis son terrier. Et quand le mois de septembre arrivait, parfois Raymond n'en menait pas large. Il disait, en période de chasse, tu vois, moi j'ai toujours eu peur des balles perdues quand on me tire comme un sanglier, même avec mon maillot violet Mercier. Alors, je cherche pas du tout à vous transformer Poupou en écolo convaincu, hein, c'est pas ça. Mais homme proche de la nature, des clochers, des lavoirs, de la terre, assurément. Cela dit, un gars qui fait durer sa bagnole allemande 750 000 km sans la changer était programmé pour ne pas succomber au mirage de la surconsommation. De passage à Hague en 2006, Raymond signa sans hésiter le manifeste du comité anti-corrida qui demandait dans un premier temps l'interdiction pour les mineurs d'assister aux dites corridas. Il admirait aussi beaucoup Renaud, il était très fier de le rejoindre dans ce combat éthique et quelques années plus tard, Raymond parraina un périple cycliste anti-corrida de 586 km. Attraper tous les jours un taureau par les cornes sans plaindre le travail, quelle que soit la météo, oui, mais aussi le défendre, car l'envoyer face à des bouchers en paillettes en le faisant foncer dans un maillot rouge, eh ben c'est qu'on comprenait pas. Tu comprends, un taureau c'est bien dans un pré. La fin sera un jour la même pour lui, mais au moins on n'aura pas joué avec. Alors merci d'avoir été un petit bout de notre histoire de France pédalante qui aujourd'hui se remet à faire du vélo en ville. Et avant de rejoindre quasiment les abysses, donc dans les Landes, ce mot de l'environnement pour débuter. Bonjour Valérie Cabanès.
Bonjour Denis.
Juriste international, on s'intéresse à deux mots, faites coller, limite planétaire. Un système terrestre, qu'est-ce que c'est? Eh ben, la Terre, elle est constituée de plusieurs sphères qui interagissent entre elles et qui est en constante évolution. Et nous avons 4 sous-systèmes.
Oui, sur lesquels, Denis, l'impact de l'activité humaine est perceptible. Alors, il y a l'atmosphère, hein, cette couche de gaz qui entoure la Terre. Il y a la biosphère, c'est-à-dire tout ce qui est vivant sur Terre. Mmh. Il y a la géosphère, la Terre physique.
C'est-à-dire le magma de la roche, le sol.
Voilà. Et puis, il y a l'hydrosphère, toute l'eau que contient la Terre.
Nous, évidemment, nous avons un impact en tant qu'humains sur eux et réciproquement.
Et je crois qu'il est vital de maintenir leur équilibre en combattant la pollution et la surexploitation. En fait, le respect des limites planétaires permettrait de garantir la stabilité de cet écosystème terrestre. Et une équipe de scientifiques rattachée au Stockholm Resilience Center nous explique depuis 2009 qu'en franchissant ces limites, l'existence humaine est menacée.
Et 9 processus donc ont été définis, hein, qui régulent et qui stabilisent en fait le système terrestre et sa résilience.
Oui, et ces scientifiques donc ont aussi défini des valeurs seuils, des valeurs pour chacun de ces systèmes qui ne doivent pas être dépassées si l'humanité veut pouvoir se développer dans un écosystème qui reste sûr.
Alors, conséquence de l'activité humaine, 4 de ces 9 limites planétaires ont été franchies.
Oui, la première, celle qui nous est la plus perceptible, c'est le changement climatique. Mais il y a aussi donc l'érosion du vivant. Il y a le changement d'usage des sols. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on déforeste partout sur Terre pour y planter des grands champs de soja, par exemple, OGM. Et puis enfin, la modification des cycles biogéochimiques, en particulier du phosphore et de l'azote. Parce qu'on a tué les sols, on rajoute dedans, en quantité excessive, du phosphore et de l'azote.
Et puis on a quand même 5 limites qui sont à surveiller. Vous avez entre autres l'acidification des océans, l'utilisation de l'eau douce, les aérosols atmosphériques. Puis quand même, toute la famille, on a des polluants organiques, les matières radioactives, les nanomatériaux, microplastiques, ça fait quand même beaucoup de choses.
Ça fait beaucoup de choses et en fait, toutes ces limites interagissent entre elles et produisent un effet cascade et nous conduisent vers un point de basculement qui est en fait caractérisé par un processus d'extinction de masse qui devient irréversible.
Et nous, Valérie, évidemment, on est dans le checker.
Oui, ben oui, on le voit bien avec le changement climatique. On a déjà atteint 415 ppm de CO2 dans l'atmosphère en mai 2019. On devrait rester en deçà de 350. Et juste pour info, nous étions à 280 avant l'ère industrielle.
Et le taux d'extinction est selon alors, les espèces de 100 à 1000 fois plus élevé que recommandé.
Donc les limites planétaires me semblent un outil pertinent pour mesurer les objectifs de développement durable, sauf que, à mon sens, ce n'est pas suffisant. Alors effectivement, l'ONU va dans ce sens, mais il faudrait aller plus loin. Il faudrait que ces limites planétaires, qui pour l'instant relèvent que d'une démarche scientifique, deviennent des normes juridiques. Elles permettraient de réguler l'activité industrielle pour mieux protéger les conditions d'existence de l'humanité à long terme.
Merci à vous Valérie Cabanès pour ce mot de l'environnement et dans quelques instants, une histoire de gouffre. Oui, avec Hugo Verlhomme, nous allons partir à Cap-Breton dans les Landes.
À travers la fenêtre, juste après le tonnerre, au coucher du soleil, juste après la fournaise.
J'ai perdu l'habitude, je cherche une ouverture vers le sable, loin de la vie, au plus vite. Le tonnerre, je ne vois que du bitume. J'ai perdu l'habitude. Au coucher du soleil, juste après la fournaise, je ne vois que de lumière qui fume.
Dans le salon, je mets les talons, je vais t'étaler. De toute façon,
serre-moi un verre, mets des glaçons. Pour rafraîchir l'atmosphère dans ce salon. À travers la fenêtre, juste après le tonnerre, je ne vois que du bitume. J'ai perdu l'habitude. Au coucher du soleil, juste après la fournaise, je ne vois que des lumières qui fument.
C'était Enchanté Julia qui nous invitait dans son salon, qui ne voit que du bitume à travers la fenêtre. Et justement, dans CO2 Mon Amour sur France Inter, c'est le contraire. De l'air, de l'iode, on part dans les Landes.
Cap-Breton est un port qui existe depuis des siècles. Les gens savaient qu'il y avait un gouffre, un creux, un gouffre, une faille, une fosse, ils ne savaient pas très bien ce que c'était. Et la raison pour laquelle Cabreton est le seul port de pêche des Landes, c'est ce canyon. Et la raison pour laquelle Osgore est un haut lieu du surf, c'est grâce à la tête de ce canyon aussi, où se forme une vague mythique qui s'appelle la Nord, qui est la vague d'Osgore. Donc c'est vrai que ce canyon, en quelque sorte, a complètement modelé la société telle qu'elle est aujourd'hui. On est là grâce à ce canyon, à Osgore et à Cabreton. Et donc c'est vrai que c'est un réservoir de mythes, mais c'est des mythes à écrire, parce que les gens ne savaient pas que c'était une vallée, un canyon de 300 km de long. Et donc c'est maintenant que les gens commencent à se réapproprier ce canyon, à écrire des contes, les scolaires font des dessins, les gens inventent des choses, les gens se souviennent de choses qui n'ont pas existé. Donc il y a une espèce de naissance d'un mythe, et ça c'est très réjouissant.
Alors, il y a quelque temps, avait lieu à Biarritz le congrès des aires marines protégées de l'Agence française de la biodiversité, parce qu'il s'agissait en fait d'élaborer une vraie stratégie nationale, quand même sur un sujet qui fâche. J'en ai profité pour remonter un peu au nord, sur la côte landaise. Alors, bon, faut préciser, hein, c'était avant qu'on s'adonne en famille à cette nouvelle activité touristique qui fait fureur, le ramassage de poudre blanche sur les plages de la côte. C'était peut-être parrainé par Bec Bédé, mais ça on ne sait pas trop. Cap-Breton, donc cité balnéaire tout à fait sympathique, et si sans le savoir, son identité ne venait pas du gouffre, donc de ce canyon marin, de ces profondeurs qui viennent lécher l'entrée du port. Hugo Verlhomme, eh ben, c'est un écrivain, spécialiste de la mer, Demain l'océan, Vague mode d'emploi, et puis surtout l'immense mer-mer, donc ce continent habité par des humains chassés de la terre et qui vivent sous l'eau, qui parle avec les cétacés. C'était vraiment, je vais presque dire, c'est un grand tube de Hugo Verlhomme. Et donc, c'est notre guide aujourd'hui, donc à l'entrée du gouffre. Ah, elle est belle, elle est généreuse, cette mer, cet Atlantique, là, pour se rencontrer. Bonjour Hugo Verlhomme.
Bonjour Denis.
Alors Hugo, regardons, nous avons la chaîne des Pyrénées, nous avons donc du caillou qui est là, et nous sommes encore sur du sable ici.
Et oui, c'est ça qui est extraordinaire ici. Regardez ce paysage fabuleux qui s'offre à nous aujourd'hui avec une météo magnifique. Derrière nous, nous avons toute la plage landaise du sud Aquitain, c'est-à-dire une longue ligne droite de sable qui fait 170 km nord-sud. Et vous arrivez ici à Cap-Breton, qui n'a rien de breton, mais qui a ni cap ni breton, mais qui est un lieu géologiquement absolument stratégique. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'à partir d'ici, de Cap-Breton, on voit l'incurvation lente de la côte vers l'ouest. C'est-à-dire qu'on est dans le cul du golfe de Gascogne, on est tout au fond du bassin, au fond de... Et c'est ça qui est extraordinaire ici sur le plan géologique. Donc le sable, brusquement, se met à tourner vers l'ouest. Puis nous arrivons un peu plus loin à la sortie de l'Adour, ce qu'on appelle la barre de l'Adour, qui nous a été volée à Cap-Breton en 1578.
Bien sûr.
Et après l'Adour... Eh bien, c'est la roche.
Voilà, on est sur le rocher, on est sur le
caillou. On arrive à Anglette, on arrive à Biarritz, et là, on est au pied des Pyrénées. Et on voit d'ici, effectivement, la chaîne pyrénéenne qui commence avec la Rune, les Trois Couronnes, et puis un petit peu plus loin, le creux d'Andaille et de Fontarabie qui montre le Raizquibel, qui est une première montagne du Pays basque espagnol, qui se finit un petit peu plus à l'ouest vers San Sébastien.
Alors Hugo Verlhomme, vous qui êtes quand même un homme, on va dire, du nord de Dunkerque, des Flandres, vous êtes arrivé ici, donc à l'exact opposé. Vous avez besoin de cette mer, d'y aller tous les jours.
Alors c'est vrai que j'habite à 300 mètres de la plage, ce n'est pas un hasard. Je vis ici parce que j'ai besoin de la proximité de l'océan, j'ai besoin de l'entendre, de le sentir et d'aller le voir et de m'y immerger puisque je pratique le body surf, qui est un sport qui consiste à surfer les vagues sans planche avec uniquement le corps et une paire de palmes aux pieds.
Ah c'est ça, vous faites à la fois la planche et le corps humain
comme disait Victor Hugo, le vaisseau, c'est l'homme.
Alors, on voit alors tous les... C'est pas toutes des otaries, hein, c'est
alors, petits tout, points noirs. Tous les petits points noirs qui flottent dans les vagues, il y en a de plus en plus. C'est une espèce invasive qui arrive depuis une trentaine d'années. Et en fait, ça s'appelle des surfeurs, c'est-à-dire qu'ils viennent du monde entier, au point que ça devient parfois très compliqué d'aller se mettre dans les vagues tellement il y a de monde. Et donc voilà, le surf connaît une espèce d'engouement phénoménal depuis une dizaine d'années.
Mais il y a un peu de surpâturage quand même.
Et effectivement, ici c'est un endroit très facile d'accès en voiture. Et donc, évidemment, dès qu'il faut marcher, il y a moins de monde. Mais ici, il y a beaucoup, beaucoup de monde et c'est la rançon du succès.
Alors, cher Hugo Verlhomme, on va découvrir ce qu'on appelle le gouffre. Parce qu'on est là pour ça.
Tout à fait.
Et rien que le nom, ça nous fait déjà un peu rêver. On se dit, c'est quoi? C'est ouf, c'est gouffre,
c'est ça.
C'est de l'occitan?
Alors, c'est du patois, probablement gascon. En fait, ça, c'est tout simplement le mot gouffre qui a dû être un petit peu patoisé et employé de façon un petit peu rustique. Et donc, on appelle ça le gouffre. Et en fait, c'est vrai que quand j'ai commencé à m'en occuper en 2006, j'ai été voir les marins-pêcheurs, j'ai été voir les élus, j'ai été voir les anciens, les historiens. Et ils disaient tous, ah bah, le gouffre, c'est une fosse, c'est une faille. Mais personne ne prononçait le mot géologique exact, qui est un canyon.
Ah oui.
En l'occurrence, ce gouffre est un canyon, c'est-à-dire une longue vallée sous-marine qui fait 300 km de long, figurez-vous,
ouais,
qui commence à quelques mètres seulement du bord de Cabreton. Et c'est ce qui en fait un canyon très, très, très particulier, puisque moins de 3% des canyons du monde sont des canyons reliés au littoral, c'est-à-dire des canyons côtiers. Et celui-là, en l'occurrence, ce canyon est un des plus remarquables de tous les canyons côtiers. Donc 300 km qui commencent tout près du bord, qui descend lentement, 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 parallèle à la côte espagnole, le long de la côte espagnole, jusqu'à la hauteur de Santander, située juste après Bilbao. Et à la hauteur de Santander, notre beau canyon fait un angle droit à 90 degrés, et là, il va se perdre dans la plaine abyssale du golfe de Gascogne, qui est entièrement à 4800 mètres.
On avait habillé quasiment en marin-pêcheur, on a tout, on a les bottes, on a tout ça, et maintenant on va rejoindre qui ?
Les embruns et le gouffre.
Allez, on y va. Le ponton.
On est déjà largué dans la...
Tu me dis quand tu veux que je largue ici ?
Ouais, les bleus, les deux.
Les largues, les deux ?
Ouais.
C'est un gros zodiaque de bateau en question, celui de Nicolas Bidou. Alors Nicolas Bidou, donc, merci de nous accueillir sur ce bateau parce que donc, vous faites partie de ces aquanautes, donc club de plongée.
Exactement.
Vous êtes aussi pompier,
oui,
et
ouais,
vous appartenez donc à la très belle SM.
SM, on voilà, passe à côté justement de la vedette, la SNSM.
Donc c'est la société nationale.
Des sauveteurs en mer, ouais, assurée par des bénévoles, on est une vingtaine de bénévoles à Cabreton. On voit la vedette, elle est le nez face au large, prête à partir. Et on voit que ben, la passe bouge un peu. Et en effet, la passe de Cabreton est réputée justement pour être assez difficile. Il faut juste la connaître un peu pour pouvoir la pratiquer en sécurité.
Quand on parle de la passe, c'est-à-dire que là, on sort d'un plan qui est calme, qui est donc ce port.
Ouais.
Et puis donc, on voit bien effectivement les vagues.
Il y a un chenal. Ce chenal communique avec la mer. Ici, c'est une côte sablonneuse. Et donc, les bancs de sable se forment à l'entrée de cette passe et font déferler la houle selon les conditions météo.
Ah, dites donc, là, j'aime bien, il y a un bateau qui s'appelle le Petit Loup.
Oui.
Ah ouais.
Les pêcheurs professionnels.
Là, tu l'es, ouais.
Ouais, c'est les pêcheurs professionnels de Cabreton et les pêcheurs côtiers, artisans, qui rentrent tous les soirs. Et,
ouais,
et eux connaissent bien la passe aussi pour y travailler tous les jours.
Allez, direction notre gouffre qui nous anime avec vous, Nicolas Bidou et Hugo Verlhomme. Et puis les mouettes. Voilà.
On va profiter de ce petit moment pour mettre le gilet ?
Oui.
Allez, on gilet. Donc, j'ai coupé le moteur parce qu'on est déjà à peine sorti du port de Cabreton, on est déjà au-dessus du gouffre. C'est le propre du gouffre, c'est un canyon sous-marin qui débute à la côte, quoi. On sort à peine de l'estacade et on est déjà au-dessus de 50 mètres et à côté, on tombera à plus de 200 mètres. L'espace d'une marche d'escalier, quoi.
Et oui. Et il peut aller jusqu'à 3000 mètres de profondeur.
Exactement. Si on va toujours plein ouest, à un moment, c'est les abysses, quoi.
Alors, Nicolas Bidou, vous connaissez, on va dire, un peu les habitants de ce gouffre. Alors d'abord, on a du dauphin, là.
Oui, en effet, ici, on a beaucoup de dauphins d'espèces différentes qui passent. On peut dire itinéraire de migration, mais aussi, surtout, c'est une zone de biodiversité importante, puisque il y a des proies pour ces dauphins. On a de la sardine, on a du maquereau, de l'anchois surtout, qui a été protégé pendant quelques années, et donc il est revenu en grande quantité. Et il y a aussi le fameux chipiran, le calmar, puisqu'on passe des abysses à la côte, et cette verticalité attire beaucoup ces animaux-là. Quoi.
Alors Hugo Verlhomme, ce lieu, j'ai presque dire que c'est le vôtre, parce que c'est vous qui avez réussi à faire connaître, j'irais populariser, on va dire, ce gouffre. Alors c'est un réservoir de biodiversité, mais je dirais que c'est aussi un réservoir d'histoire, de mythes peut-être.
Alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est de penser que Cabreton est un port qui existe depuis des siècles. Les gens savaient qu'il y avait un gouffre, un creux, un gouffre, une faille, une fosse, ils ne savaient pas très bien ce que c'était. Et la raison pour laquelle Cabreton est le seul port de pêche des Landes, c'est ce canyon. Et la raison pour laquelle Osgore est un haut lieu du surf, c'est grâce à la tête de ce canyon aussi, où se forme une vague mythique qui s'appelle la Nord, qui est la vague d'Osgore. Donc c'est vrai que ce canyon, en quelque sorte, a complètement modelé la société telle qu'elle est aujourd'hui. On est là grâce à ce canyon, à Osgore et à Cap-Breton. Et donc, c'est vrai que c'est un réservoir de mythes, mais c'est des mythes à écrire, parce que les gens ne savaient pas que c'était une vallée, un canyon de 300 km de long. Et donc, c'est maintenant que les gens commencent à se réapproprier ce canyon, à écrire des contes, les scolaires font des dessins, les gens inventent des choses, les gens se souviennent de choses qui n'ont pas existé. Donc, il y a une espèce de naissance d'un mythe, et ça, c'est très réjouissant.
On aime le corail. Que trouve-t-on comme corail, Nicolas Bidou ?
Ici, du fait des profondeurs, on est sur des biotopes de corail d'eau froide. Les coraux d'eau froide ne sont pas très connus. Hein. On imagine toujours le corail comme une espèce tropicale d'eau chaude. En fait, il en existe à des profondeurs importantes. Et ici, grâce au canyon et ses profondeurs importantes, eh bien, on en a. On va en citer deux principaux qui ont été redécouverts, on va dire, récemment.
Le corail noir.
Le corail noir et le corail jaune.
Et que vous venez de découvrir, vous, les aquanautes, alors que c'est une grosse surprise. On ne savait pas.
Exactement. Des morceaux dans des filets avaient donné des indices, mais il n'avait pas été observé sur son site. En parallèle, l'IFREMER a fait des campagnes pour étudier ce canyon et dans les images, ils ont aperçu ce corail jaune à des profondeurs importantes. Et nous, plongeurs loisirs, grâce à la technique de plongée au mélange, nous plongeons de plus en plus profond et nous avons trouvé nos premiers coraux jaunes à 100 mètres de profondeur. Et j'ai tendance à dire, c'est un peu comme les champignons, quand on a trouvé le premier, on arrive à voir les autres ensuite. Et donc on essaye maintenant de comprendre un peu sa répartition sur la tête du gouffre. Et en cherchant ce corail jaune et sa répartition, on est tombé sur un autre corail, l'antipathe, qui est un corail noir et encore plus mystérieux, parce que lui, il a été utilisé en bijouterie en Méditerranée. Quoi.
Alors cet océan, il fait partie de vous. Enfin, genre ce point commun avec Hugo Vert, là, vous avez été constitué véritablement par cet océan. Est-ce que vous le voyez changer ? C'est-à-dire que ses humeurs sont peut-être toujours les mêmes, les vagues sont toujours aussi belles, mais est-ce que quand même vous le sentez changer ?
Mais tous les gens du coin sont tournés, quand ils regardent vers la mer, on va dire au bulletin météo. Et on essaie de se rappeler les années précédentes et cette année. Et donc, je pense que le premier changement, ça serait les saisons n'ont plus trop de règles. Et on observe que l'eau, on est fin octobre et elle est encore chaude, on pourrait se baigner en maillot de bain. Avant, c'était à Pâques qu'on se baignait en maillot de bain. Et maintenant, on met la combinaison. Donc, ça, c'est des tendances. Nous, on n'est pas experts pour le mesurer, mais on arrive à observer ça.
Ce qu'on voit, c'est des espèces tropicales qui remontent par ici, qu'on n'observait absolument pas il y a 10 ou 15 ans, comme la dorade coryphène, le requin marteau, l'espadon, le voilier, les balistes, le poisson lune, qui est devenu un habitant régulier du canyon, que les aquanautes observent très souvent en plongée. Tous ces poissons-là, on ne les voyait pas ici il y a 15-20 ans. Et donc ça, c'est un marqueur très très spécifique et très clair du changement climatique et des nouvelles espèces qui viennent à la place des autres. Et c'est vrai qu'on parle toujours des espèces qui disparaissent, mais il y en a qui se... Ça a toujours été comme ça sur Terre. Des espèces se sont déplacées en fonction des accidents climatiques ou géologiques pour venir ailleurs. Donc ça bouge et ça bougera toujours.
C'est un formidable lieu de découverte, ça. Et puis, donc, il a dit, les gens se souviennent de choses qui n'ont pas existé. C'est pas mal, ça non plus. On va poursuivre ce voyage donc, dans le gouffre. Et laissons la voix de cet homme que vous connaissez.
I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire. But it spread the dying spark. Go tell the young Messiah. What happens to the heart? There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business, but it left an ugly mark. I've come here to revisit. What happens to the heart? I was selling holy trinkets. I was dressing kinda sharp. Had a pussy in the kitchen and a panther in the yard. In the prison of the gifted, I was friendly with the guards, so I never had to witness what happens to the heart. I should have seen it coming. After all, I knew the chart. Just to look at her was trouble. It was trouble from the start. Sure, we played a stunning couple, but I never liked the part. It ain't pretty, it ain't subtle. What happens to the heart? I was handy with a rifle, my father's 303. I fought for something final, not the right to disagree.
Mais qui pouvait résister à cette voix? Merci Leonard Cohen.
CO2, mon amour.
Capitaine, un calmar géant à l'arrière. Arrêt et appel surface. Préparez-vous à une lutte serrée avec le plus tenace de tous les monstres marins.
12 mètres de la surface, capitaine.
Denis Chessou.
Tenez-vous prêt.
Sur France Inter.
Alors vous l'avez compris, nous sommes donc dans les Landes, nous sommes sur ce fameux gouffre avec Nicolas Bidou. Petite parenthèse, il faut quand même beaucoup aider la SNSM, à nos sauveteurs. Ils font un boulot absolument formidable sur toute la France. Donc le vent chahutait avec la mer, les bateaux chalutaient la mer, il faisait beau, il faisait des vagues, c'était l'automne, c'est l'automne, il y avait des écumes, surf et rouleau jeunesse. Et on a envie d'en savoir plus avec vous, Hugo. La formation de ce canyon, où en est-on? Comment il s'est formé, ce fameux canyon?
Alors, la formation des canyons est un phénomène un multifaisceau, je dirais. Il n'y a pas une explication simple. Ce n'est pas la tectonique des plaques. Ce n'est pas aussi simple que ça.
Il y a les Pyrénées, quand même, qui sont sorties.
Il y a les Pyrénées. Et donc, c'est évident qu'ici, il y a eu la plaque ibérique et armoricaine qui se sont détachées il y a 85 millions d'années, etc. Ça a formé le golfe de Gascogne. Et que la charnière de ça, c'est la faille pyrénéenne qui se prolonge directement dans le canyon qui est ici. Donc, évidemment, qu'il y a une espèce de cicatrice géologique très importante, qui est peut-être le fruit de la tectonique des plaques. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce canyon très particulier est encore connecté au rivage. Ça, c'est vraiment sa particularité exceptionnelle. Et par ailleurs, en fait, si vous voulez, ces canyons ont été vraiment créés au fil du temps par notamment le haut et le bas niveau marin. Il ne faut pas oublier qu'il y a 20 000 ans, ici même, le niveau de l'océan était 120 mètres plus bas, ce qui est absolument monstrueux. 20 000 ans, c'est rien du tout. Donc c'est l'époque de Lascaux, 18 000, 20 000 ans. Et donc ça veut dire qu'à Cabreton, on ne voyait même pas la mer. 120 mètres, c'est très très loin, sauf pour le canyon, bien entendu.
On était sur la terre pratiquement ici.
Voilà, on était sur la terre. Et donc les hauts et bas niveaux marins différents ont eu une influence évidemment sur le littoral et le plateau, etc. Et puis il y a aussi les phénomènes d'érosion régressive, c'est-à-dire c'est une érosion qui part du bas, du fond de la mer et qui remonte un peu vers le littoral. Et en fait, tous ces phénomènes conjugués ont fait que les canyons se sont créés, que petit à petit, à force de se créer, certains fleuves sont venus couler dedans. Ici, ça a été l'Adour. Mais si l'Adour a coulé ici, c'est parce que le canyon était déjà là. Donc une fois que le canyon est là et que le fleuve se jette dedans, il participe évidemment à sculpter le canyon. Il bouge les sédiments, il y a des effondrements, etc. Mais ce ne sont pas les fleuves qui ont causé les canyons.
Et on va le personnifier quand même, ce canyon, parce qu'il est totalement vivant. C'est-à-dire qu'il va secouer, il va bouger, il va grandir, rapetisser.
Alors c'est ça qui est extraordinaire avec ce canyon, c'est à quel point il vit, il a des réactions quasi humaines. Et puis on est très surpris parce qu'il n'y a pas de sable au fond pratiquement, alors qu'il devrait y en avoir plein. Et en fait, il y a des effondrements tout le temps, c'est remodelé, il y a des courants qu'on ne connaît pas. Et figurez-vous que RTE est venu pour poser un câble, qu'ils ont demandé notamment aux aquanautes, et je crois que Nicolas faisait partie des plongeurs, de prendre des points GPS pour voir où ils allaient passer le câble. Ils sont revenus 3 mois plus tard et à l'endroit qu'ils avaient choisi, ils sont aperçus qu'il y a eu un glissement de terrain de 16 mètres de haut.
Ah, ils n'ont pas été déçus là.
Ce qui est gigantesque parce que c'était à peu près un petit peu plus loin que l'endroit où on se trouve ici, mais à peine. Et donc ça veut dire que ce canyon, eh ben, il bouge énormément. Il y a des bulles, il y a des tas de choses qui le rendent vivant. Inquiétant presque dans le bon sens du terme, parce que c'est comme un monstre endormi. Hein. Ouais. Et puis on ne sait pas
ce qu'il y a. Il éternue même.
Il éternue, il se gratte, il a des soubresauts, des hoquets. Et il ne faut pas négliger ça, parce que c'est vrai que c'est quand même une espèce de monstre endormi au pied de Cabreton et qu'il faut l'avoir à l'œil.
Il y a des hoquets, mais c'est plutôt des hoquets corail.
Oui, c'est hoquets corail, absolument. Oui, oui. Et Nicolas est bien placé pour les avoir vus, puisque c'est lui qui a fait les points GPS notamment, qui montrait qu'il y avait ces effondrements absolument stupéfiants en l'espace de 2 mois.
C'est une mer qui nourrit les hommes. On voit d'ailleurs différents types de pêche, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a de la pêche couturière. On a combien de pêcheurs ici, Cabreton ?
Il y a 19 bateaux de pêcheurs professionnels, artisanaux. Et ensuite, il y a les pêcheurs de la côte basque qui ne privent pas de remonter jusqu'ici. Puisque finalement, en ligne droite, le Pays Basque, on voit la rune juste un peu plus loin, et vraiment pas loin, quoi. Donc les pêcheurs de Saint-Jean-de-Luz, par exemple, viennent pêcher aux abords du canyon.
Alors plus loin, donc on a quand même eu de la castagne entre pêcheurs français et pêcheurs espagnols.
Exactement.
Là, c'est pas les mêmes bateaux.
On est sur la pêche du thon rouge. Le thon rouge a une valeur commerciale importante.
Très lourde, oui.
Et grâce aux protections qui ont été faites sur l'anchois notamment, on a de plus en plus de poissons. Et ça attire donc les pêcheurs. Donc il y a une confrontation un petit peu entre la pêche hauturière et la pêche côtière qui, elle, permet de la vente directe et des choses comme ça.
Celle-là, elle n'est pas dévastatrice. Hein.
Non. Ils sont influencés par des quotas et c'est surtout les débits de revente qui conditionnent leur pêche, quoi.
De nouveau sur la terre ferme avec vous, Hugo. Hop, là on se pose et vous souhaitiez donc vous faire découvrir cette petite rivière, ce petit fleuve qui va se jeter donc dans le port.
Petite rivière, ouais, qui se jette dans le port, qui fait partie du bassin hydrographique extraordinaire d'Osgore-Cabreton. Cette petite rivière s'appelle le Bourette. C'est un endroit qui était fréquenté par les Vikings qui remontaient jusqu'à en Grèce pour s'installer à l'abri des mascarets et des tempêtes. Et il y a une autre rivière qui s'appelle le Boudigo, qui se jette aussi dans le port et qui est l'ancien lit de la Dour.
D'accord.
Donc là, on est dans une de ces petites rivières anciennement qui servaient d'abri aux bateaux.
Alors le gouffre très au fond, mais quand même, cette biodiversité dans le gouffre, comment elle se traduit ?
La biodiversité du gouffre, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'abord, il faut savoir que les canyons sous-marins sont des hotspots de la biodiversité. Ce sont des endroits où va se nicher la biodiversité la plus extraordinaire. Parce que rien que dans le canyon de Cabreton, on a des espèces de cétacés très peu connus, qu'on voit pas ailleurs, comme la baleine à bec de Bainville ou le cachalot pygmée, qui sont vraiment des créatures assez particulières. Le cachalot pygmée, pour dire, ne se nourrit que de céphalopodes. Et il a une particularité de l'évolution, c'est qu'il s'est fait lui-même une poche d'encre, alors que c'est un cétacé. Et il peut cracher de l'encre pour se protéger de ses ennemis ou au contraire pour attaquer des proies. Donc ce qui est extraordinaire, la biodiversité du canyon, on la voit sur les étals des pêcheurs, puisqu'on a 19 marins pêcheurs qui pêchent au-dessus du canyon, sinon il n'y aurait pas de port de pêche. Et alors évidemment, on trouve des poissons de roche, chose qu'on ne trouve pas ailleurs puisqu'on est sur du sable. Donc on a les crustacés, on a des homards, on a des langoustes, on a des tourtons, on a des rougets grondins, on a des rascasses, on a même des mérous maintenant, puisque avec le changement climatique, on a tous ces poissons qui remontent. Et puis quand on descend un peu dans les abysses, un peu plus loin, au large, eh bien on trouve des poissons beaucoup plus inhabituels, comme le fameux régalec, le roi des harengs, ce poisson qui était un peu comme un serpent de mer. Et puis on trouve aussi des requins marteaux maintenant, de temps en temps. On trouve aussi des baleines, des cachalots, des orques, des dauphins qui viennent manger toutes les proies. C'est-à-dire qu'il y a tout un biotope, un écosystème qui fonctionne assez bien, avec toutes les créatures qui sont amenées des abysses, qui nourrissent les poissons pélagiques, les poissons bleus, etc., qui passent par là.
Le calmar géant, est celui-là.
Ah, le kraken, oui. Le fameux mythique calmar géant. Eh bien, ce calmar géant, il habite effectivement dans le canyon, dans les canyons, pas seulement dans le nôtre. Et c'est vrai que c'est un réservoir de mythes extraordinaire, ce calmar géant, qui est un peu le symbole du canyon, parce qu'ici, on mange beaucoup de chipiron, de calmar,
oui,
de sèche.
Notre calmar géant,
alors, le calmar géant,
il tient pas dans l'assiette.
Non, il fait quand même 18 mètres de long pour les plus grands spécimens, mais il faut savoir qu'un calmar géant n'est pas comestible parce qu'ils sont bourrés d'ammoniac.
Ah oui.
Donc on peut même pas les approcher tellement ça sent mauvais. Mais c'est vrai qu'on ne savait pas s'ils étaient réels ou pas. Et en fait, parfois, les pêcheurs espagnols en prennent dans leur filet quand un calmar essaye de passer d'un canyon à l'autre, il remonte vers la surface et là, il se fait prendre accidentellement. Donc, il y a un certain nombre de calmars géants, mais qui vivent à plusieurs milliers de mètres de fond. Et ils font vraiment partie des créatures les plus mythiques du canyon.
Hugo Verlhomme, l'homme qui a créé quand même Mermer. Ce Mermer, qu'est-ce qu'il dirait face à ce gouffre aujourd'hui ? c'est aussi un peu le sien, quoi.
Alors c'est vrai que ce gouffre qui a cette particularité extraordinaire de commencer au bord, pour moi c'est comme un couloir qui mène vers le mystère. Parce que n'oublions jamais qu'on ne connaît que 5% des fonds marins. Et donc ce couloir, pour moi, il amène vers l'Atlantide. Alors vous allez me dire, mais c'est une blague, l'Atlantide ça n'existe pas, il n'y a pas des humains qui respirent sous la mer.
Ben, si.
Mais j'ai quand même créé les Noé dans Mer-Mer, qui d'ailleurs va être réédité au début de l'année. Ouais. Et je pense que l'avenir de l'humain, il est simple, et qu'on aime la mer ou pas, on doit s'océaniser. L'humanité doit s'océaniser. On n'a pas le choix. Si on veut survivre, il faut considérer que l'océan est notre seul présent et notre seul futur. Et pour moi, ce canyon, c'est la porte ouverte vers tous les mystères, vers les abysses, vers les créatures inconnues, puisque, je disais, moins de 5% des fonds marins, mais aussi moins de 5% de la biodiversité marine. C'est quand même extraordinaire de penser qu'on vit sur une planète occupée à 71% par l'océan et qu'on connaît moins de 10% de cette biodiversité marine et qu'on part sur Mars, qu'on connaît très bien, etc. Donc, pour moi, c'est un symbole de tout cet inconnu océanique que non seulement nous devons découvrir et protéger, mais nous devons en faire partie.
Eh bien, écoutez, cher Hugo, on va se quitter. Je vais reprendre plutôt ma bicyclette. Vous allez peut-être reprendre votre bateau et votre planche de surf. Je ne sais pas ce que ça va
être. On va suivre la dérive littorale vers le sud.
Et voilà, et on va aller vers le sud. Un grand merci, Hugo. À bientôt.
Merci, Denis.
Impeccable réalisation de Jérôme Boulet, mixée par Arthur Le Breton. Bref, le son France Inter. Donc merci aux aquanautes et Nicolas Bidou. Puis lire et relire Mer-Mer. Hein. Vraiment, allez-y pour vos ados, c'est absolument parfait. Et s'océaniser aussi, comme il le disait. Et puis aussi, vous allez voir une vidéo. Je remercie beaucoup Ifremer parce qu'il nous offre une modélisation de ce gouffre. C'est sur le site de CO2 Mon Amour.
CO2 Mon Amour.
Au nom de la loi, ouvrez !
Il est là.
Denis Chessou.
En plongée, 20 mètres.
En plongée, immersion, 20 mètres.
Je ne sais pas nager. Nous allons nous noyer.
Sur France Inter.
Les derniers mots de l'émission, Jacques Bonafé.
On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. Albert Einstein.
Nous avons préparé l'émission avec Marion Philippe, Camille Blanès et Jérôme Boulet. On peut la podcaster. La semaine prochaine, c'est Mathieu Ricard qui nous parlera d'émerveillement avec ses photos. Et on parlera aussi écologie. Je vous retrouve ce soir pour l'atelier Mon Petit Loup. On essaiera de faire lire vos enfants. Le Twitter, c'est Denis Chessou. Je vous souhaite un très bon dimanche.